SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Jeudi 28 mars 2024 sur SBS Audio, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre programme en français. Marianne Murat à vos côtés pendant une heure. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Jack Gilmer, un architecte appartenant au peuple Worimi et Biripiguri. Il est basé à Sydney et il est l'un des récipiendaires du programme de résidence Galang 2024. On vous en dit plus dans un instant, mais d'abord, on commence avec le journal. À la une de ce jeudi, deux corps repêchés dans le port de Baltimore, deux jours après l'effondrement d'un pont. Quatre autres personnes sont toujours portées disparues, elles sont présumées mortes également. Les États-Unis rappellent à Israël leur opposition à une offensive à Rafah. Pour Anthony Blinken, il existe d'autres solutions qu'une invasion terrestre de grande envergure, ce que conteste Benjamin Netanyahou, vous l'entendrez. Et enfin, un couvre-feu de deux semaines à Alice Springs, renforcé pour les mineurs suite à des échauffourées ayant entraîné des violences parmi environ 150 personnes de la communauté aborigène. Les territoires du Nord demandent au gouvernement fédéral d'intervenir. Début de ce journal aux États-Unis où les corps de deux hommes ont été repêchés par les sauveteurs dans le port de Baltimore. Ils étaient âgés de 26 et 35 ans. On rappelle qu'un pont s'est effondré après avoir été heurté par un porte-conteneur. Roland Butler de la police de l'État du Maryland.
Divers located a red pickup truck submerged in approximately 25 feet of water in the area of the middle span of the bridge. Divers recovered two victims of this tragedy. Trapped within the vehicle.
D'après les gardes-côtes, le navire, qui est toujours encastré dans un pylône, est stable, mais contient près de 7 millions de litres de pétrole et autres matières dangereuses. La vigilance est donc de mise, en plus des conséquences économiques. La voie maritime étant fermée pour plusieurs jours encore. De leur côté, les autorités portuaires de Singapour ont assuré que le cargo impliqué dans cet effondrement, un cargo battant pavillon singapourien, donc, avait passé toutes les inspections et disposait d'autorisations valides au moment de l'incident. Le navire avait lancé un appel de secours après avoir perdu le courant quelques instants avant finalement de s'écraser sur le pont Francis Scott Key. 6 personnes portées et disparues, on l'a dit, 2 corps ont depuis été repêchés. Les autres victimes sont également présumées mortes. On écoute le gouverneur du Maryland, Wes Moore.
It's difficult to understand what infrastructure could have taken that level of hit and that level of direct hit. So we do understand the uniqueness of this situation, but we also do think that this warrants a time for us to really think about our infrastructure as a whole, our maritime infrastructure, rail infrastructure, all infrastructure, and making sure that Maryland can lead the way in having real core infrastructure assets that are both safe and effective.
Direction le Moyen-Orient maintenant avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui cherche à minimiser les inquiétudes des États-Unis concernant une potentielle invasion terrestre dans la ville la plus au sud de Gaza, Rafah. Monsieur Netanyahou a déclaré à une délégation bipartite du Congrès américain actuellement à Jérusalem que ceux qui se sont réfugiés à Rafah pourront s'éloigner des combats s'ils le souhaitent. Israël veut détruire ce qu'il dit être 4 bataillons du Hamas à Rafah, affirmant qu'une offensive terrestre est nécessaire pour les extirper de leur bastion. Pour Benjamin Netanyahou, une opération terrestre ne constituera pas une catastrophe humanitaire.
Now we are told, you can't do this. If you go into Rafah, you're going to have a humanitarian catastrophe. You're going to have, I don't know, 30,000 dead. 30,000 civilian dead. Okay. That's not true. That is simply not true.
Contrairement à la ligne prise par les États-Unis, que ce soit par Anthony Blinken ou par Joe Biden qui refuse une invasion terrestre à Rafah, eh bien il y a le sénateur républicain Lindsey Graham de Caroline du Sud qui lui pousse l'administration Biden à soutenir cette opération terrestre pour qu'Israël puisse détruire le Hamas.
The 4 battalions that still reside in the Rafah region must be destroyed. That is non-negotiable. One thing I've learned from talking to the Israeli Defense Forces is if these battalions are left intact, everything they've achieved will be lost over time. So I urge the Biden administration, the Congress, to make sure that Israel has the time and space to achieve victory over Hamas militarily.
On en vient à l'actualité australienne. Un couvre-feu de 2 semaines a été instauré pour les mineurs d'Alice Springs à la suite d'une série de violentes bagarres impliquant des centaines de personnes dans un pub. Les échauffourées ont débuté mardi après-midi lorsqu'un groupe a attaqué la Todd Taverne alors que les tensions s'intensifiaient après la mort d'un adolescent. Plusieurs dizaines de policiers supplémentaires seront déployés dans la ville d'environ 30 000 habitants pour contribuer à ces mesures. La ministre des Australiens autochtones, Linda Burney, s'est félicitée de ses actions.
The Northern Territory government is taking responsibility, as is the community in Alice Springs. I've had discussions with community leaders, and I'm very heartened by the recognition of the responsibility of community leadership in this situation.
Et contrairement à l'opposition, le maire d'Alice Springs ainsi que la chef des territoires du Nord appellent le gouvernement fédéral à intervenir à Alice Springs et plus largement dans les territoires du Nord. Les excuses du chef des forces de défense australiennes au personnel et aux anciens combattants pour les échecs récurrents de l'armée lors d'une audience publique. Le général Angus Campbell est le seul témoin de la Commission royale sur la défense et le suicide des vétérans. Des enquêtes se penchent sur le poids mental exercé par la hiérarchie militaire. Il affirme que la DF s'engage à faire mieux dès aujourd'hui.
Our people deserve and should rightly expect the well-being support and care they need, both during and after their service. I acknowledge that this has not always been the case and has tragically led to the deaths by suicide of some of our people. I apologize unreservedly for these deficiencies. Defence is committed and I am committed to doing better.
Politique australienne toujours et les Verts ont critiqué les modifications proposées par le gouvernement fédéral au régime national d'assurance invalidité connu sous le nom de NDIS. Présenté au Parlement par le ministre du NDIS, justement Bill Shorten, les changements obligeraient 660 000 Australiens couverts par le programme à subir une nouvelle évaluation. Ils recevraient alors un plan et un budget basés sur leurs besoins, l'argent reçu étant uniquement dépensé conformément à leur plan. Mais le sénateur vert Jordan Steele-John estime que les changements proposés sont injustes pour les personnes handicapées.
Disabled people are feeling gaslit. This legislation has been dropped on the community after it was developed in secrecy, forcing disabled people to sign non-disclosure agreements on the penalty of prosecution. What we see is a piece of legislation which is deeply concerning to disabled people because it undermines the foundational core of the NDIS.
Et enfin, clap de fin bientôt pour la maire de Melbourne. Sally Capp a annoncé qu'elle quitterait ses fonctions en juin après 6 ans passés à ce poste. Le moment choisi pour sa démission permettra à son adjoint Nicolas Rees de devenir maire avant les élections locales d'octobre. Sally Capp a déclaré à Nine Radio qu'elle ne pouvait pas s'engager pour 4 ans supplémentaires.
People often ask me, are you going to recontest the election? That's actually not the big question. It's can you commit for the 4 years of the term? And having put in that maximum effort and seeing Melbourne in this incredible positive trajectory, it's really time, I think, for me to move on.
Un point sur la météo de ce jeudi après-midi. Grand soleil à Perth, il fait 29 degrés, 27 à Adélaïde, 20 à Melbourne. Comptez 20 degrés à Hobart, 26 à Canberra, 25 à Sydney. Il fait 28 degrés à Brisbane où les habitants sont sous la pluie également à Cairns, 31 degrés. Il fait 32 à Darwin. Le rappel des titres, 2 corps repêchés dans le port de Baltimore 2 jours après l'effondrement d'un pont. Les États-Unis rappellent à Israël leur opposition à une offensive à Rafah. Et un couvre-feu de 2 semaines à Alice Springs renforcé pour les mineurs suite à des échauffourées parmi environ 150 personnes de la communauté aborigène.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez sur SBS French tout de suite. C'est le journal des sports. Il est signé Christophe Mallet.
Journal des sports, on débute ce journal des sports avec cette affaire en Espagne, cette affaire autour du racisme reçu par le joueur brésilien Vinicius, joueur qui joue depuis 6 ans donc dans le championnat espagnol. Et là, c'était un match amical entre le Brésil et l'Espagne et le joueur dans une conférence de presse a craqué.
Excusez-moi.
Je veux juste jouer au football.
Je vais juste jouer et faire tout ce que je peux pour mon club et pour ma famille.
Voilà, on sent l'émotion de Vinicius qui se bat fermement contre le racisme dans le football. Les explications d'un joueur international, l'ancien international camerounais Benjamin Mukanjo.
Je pense qu'au-delà de tout ça, on sent quand même un homme, je ne parlerai même pas du footballeur, c'est un homme qui est marqué... pour moi, à vie, de par ces épisodes à répétition, ce racisme qu'il subit depuis des années, auquel, vous le disiez, Annie, on ne trouve pas de solution, du moins pas pour le moment. Ou alors les décisions qu'on prend, je trouve que ne sont pas assez fortes pour pouvoir permettre de dissuader ces gens-là de pas répéter ce genre de choses. Je trouve qu'on en a déjà parlé plusieurs fois ici, et on disait en plus qu'on en reparlera encore et encore et encore, ça fait des années qu'on en parle. C'est un sujet qui, pour moi, j'ai l'impression qu'il ne sera jamais clos. On en reparlera encore dans 10 ans, parce que peut-être les décisions qui sont prises ne sont pas forcément des décisions fortes. À un moment donné, il faut que les responsables soient mis au devant de la scène et qu'ils assument aussi la responsabilité. Mmh. Au-delà des supporters qui viennent dans le stade et qui entonnent des chants ou des cris dont je tairai le nom, il y a aussi la responsabilité des clubs.
Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette affaire qui dure depuis très longtemps, hein, on l'a entendu. Le racisme dans le football est loin d'être éteint. On continue sur le football, mais sur le terrain, cette fois-ci, les moins de 23 Français, les bleuets comme on les appelait avant, maintenant les moins de 23 pour la campagne olympique. Départ un peu poussif, match nul récemment contre les États-Unis, 2-2, une victoire sur le fil contre la Côte d'Ivoire, 3-2. Mais Thierry Henry est plutôt confiant.
T'es en configuration JO où tu joues assez rapidement, comme tu vas l'avoir avec les JO. Donc voilà, j'ai trouvé l'équipe très bonne en première mi-temps. On n'est pas très bien rentré en deuxième mi-temps, mais on savait qu'on allait souffrir à la fin. C'est dans le titre, pas de changement, mais c'est un exercice qu'on a cherché ce soir. Regardez si les jeunes et les joueurs peuvent jouer dans le rouge. Gagner une compétition, faut savoir jouer dans le rouge. Et ça a été beaucoup plus difficile pour nous de faire le contre-effort, que ce soit à l'aller ou au retour, dans les 25 dernières minutes. Donc, ça a été un exercice très riche pour moi, de voir qui pouvait jouer dans le rouge ou pas.
Thierry Henry, donc, le sélectionneur de cette équipe de France. On continue sur le football avant de passer au cyclisme et on va partir sur le Cameroun. Et au sortir d'une canne ratée, les critiques ont été nombreuses sur la gestion de l'équipe qui n'a d'ailleurs toujours pas de sélectionneur. Il y a tout un scandale autour des dates de naissance des joueurs. 62 joueurs d'une liste donc de footballeurs qui avaient été autorisés à jouer dans le championnat national ont été épinglés et mis à pied pour avoir supposément donc menti sur leur âge. 62 parmi lesquels Wilfried Douala qui est présenté comme un prodige de 17 ans mais qui est au cœur de la polémique. Les explications de Serge Mbibé, il est commentateur et rédacteur en chef de la radio RSI au Cameroun.
Le nouvel exécutif en place en a fait un peu un cheval de base. Avant, pour remettre des papiers pour des licences, on le faisait avec des actes de naissance. Mais pour ceux qui sont au Cameroun, on sait que parfois, avec des actes de naissance, c'est pas l'assurance tout risque. Ils ont demandé aujourd'hui à ce que tout se fasse avec des cartes nationales d'identité. Donc, il y a vraiment une réelle volonté de la part de l'exécutif actuel d'aller au front contre cette situation. Maintenant, comment est-ce que ça apprécié? C'est diversement apprécié parce que vous le savez, il y en a qui sont pour la fédération, il y en a qui ne le sont pas. Après, ce que on peut regretter, c'est le timing. À la fédération, on dit il y a les playoffs qui arrivent, c'est une phase décisive. Du coup, il faudrait que tout le monde soit en règle, par principe, pour s'éviter certaines situations. Et d'un autre côté, on dit peut-être qu'il fallait le faire un peu plus tôt.
Voilà donc pour le football. On parle maintenant de cyclisme pour conclure ce journal. Et hier, c'était le lancement officiel de la Super League de vélo. Alors, lancement médiatique, les courses commenceront l'année prochaine. La Super League de vélo, eh bien, ça remplace ce qu'on appelait avant le NRS, donc qui était un championnat national intégralement dédié aux jeunes cyclistes et vraiment tremplin pour les jeunes pousses du cyclisme australien. Et on écoute d'ailleurs Kelly Bennett, elle est championne d'Australie des moins de 23 dans le Critérium. Elle nous parle de l'opportunité d'avoir cette Pro Vélo League.
Yeah, so it means that so teams will have a lot more exposure and I would potentially get a lot more exposure as a rider, which then acts as a stepping stone to Europe and trying to get into higher teams over there, or Conti teams or World Tour teams over there. So yeah, no, it's really exciting.
Kelly Bennett donc qui court chez nos amis de Bridgelane avec Pacho. Et on écoute également Matt Wilson, ancien coureur professionnel, deux Tours de France à son actif. Il est la tête de proue de cette nouvelle Pro Vélo League.
C'est un exciting new concept, much more compact racing formula. So, sort of 10 to 12 week season, starting in January, finishing in the end of March, and really just bringing in our oldest, most traditional events, and then bringing in some new and exciting events as well, and bringing them back to capital cities, back to where people can watch it. Creating some really great, interesting broadcast coverage and getting eyeballs back on domestic road cycling.
Voilà donc la Pro Vélo League, on l'espère, sera aux alentours d'SBS 3 mois l'année prochaine à partir de janvier. C'est tout pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français. Vous êtes sur Radio SBS. À tout de suite.
Zao de Sagazan sur les ondes de SBS Audio avec cette chanson « A que la vie est belle » qui fait partie de notre sélection du mois de mars 2024. On en parlait dans le 3 minutes d'hier, l'inflation en Australie, pas d'éclaircie en vue malheureusement, c'est ce que nous expliquent Christophe Mallet et Nicolas Perpich dans la chronique Économie. À tout de suite.
SBS French, mardi, jeudi, samedi et dimanche, à 13h ou à tout moment en ligne.
Et comme chaque semaine, on va parler d'économie avec notre spécialiste en la question, Nicolas Purpich. Salut Nicolas.
Salut Christophe.
Alors, on va parler d'inflation. C'est le sujet du moment à travers la planète. Mais il semblerait qu'en Australie, on arrive à comprendre que l'inflation, bah, c'est surtout deux pôles des dépenses qui augmentent, la nourriture et les assurances.
Voilà. En tous les cas, pour le mois de février, et là, c'est intéressant parce que pour le mois de février, l'inflation est restée à 3,4%. Donc ça, ça veut dire que trois mois de suite, le taux d'inflation est 3,4%. On peut dire que ça s'est stabilisé, ce qui est une bonne nouvelle. Ça veut dire que ça monte pas. On espère que ça se stabilise et après, ça va commencer à descendre. Mais si on regarde de plus près ce qui s'est passé en février, on regarde que, on voit que la nourriture et les boissons non alcooliques sont montées par 8,4%. Et les assurances, les services financiers, par 8,4% aussi. Donc c'est ça les deux choses les plus chères en ce moment. À part ça, l'alcool et le tabac qui montent toujours, ça c'est 6,1%. Et aussi, comme d'habitude, le prix des maisons, des appartements, ça monte, ça, en février, par 4,6%. Donc ça explique un peu ce qui se passe dans l'économie, ce que les gens
dépensent,
bien, ouais. Ils dépensent. C'est normal qu'on dépense sur la nourriture, normal qu'on dépense sur les boissons, les assurances, les maisons. Ce qui est intéressant, c'est que
ça vient après une enquête qui a été faite il y a si peu de temps, pas trop longtemps, sur la compétitivité aussi en Australie du marché des supermarchés. On sait qu'il y a beaucoup de questions sur la façon dont les supermarchés les relations qu'ils peuvent avoir avec leurs producteurs, etc. Et à quel point ça peut impacter le panier moyen des Australiens moyens et directement dans le portefeuille des Australiens moyens.
Voilà, on en a parlé il y a pas longtemps justement, les deux grands supermarchés et en particulier leur relation avec les fermiers. Comment eux, ils demandent un certain volume de nourriture, etc., des fermiers, et après, ils en prennent moins, mais le prix baisse pour les fermiers, mais monte pour les clients.
Est-ce qu'on a une vision à plus long terme de l'inflation? Est-ce que les économistes se disent, ça commence à ralentir, ça augmente sur certains points, mais ça ralentit ailleurs? Est-ce qu'on a un aspect positif? On sait que la Banque centrale avait pas augmenté ses taux d'intérêt la dernière fois, ce qui pouvait être un bon signe, en tout cas sur l'inflation. Où on allait, si on prenait le pouls aujourd'hui de la nation et des portefeuilles des Australiens, où on en serait, Nicolas?
Oui, ben c'est toujours un peu délicat, un peu dangereux d'essayer de dire ce qui va se passer avant la fin de l'année, en particulier en ce qui compte la Banque centrale australienne, parce que c'est pas toujours très prévisible. Et il y a eu même plusieurs, on dirait pas un scandale, mais le dernier gouverneur a dû partir parce qu'il avait fait des prévisions qui étaient fausses en fait. Mais là. C'est attendu que le taux d'intérêt devrait baisser avant la fin de l'année. C'est attendu que le taux d'intérêt, la Banque centrale va agir finalement. On pense que ça devrait baisser le taux d'intérêt une ou deux fois dans les mois à venir, ce qui sera un énorme soulagement. Là, si on continue à voir la nourriture qui monte, les maisons qui montent, ça c'est normal. C'est peut-être pas tout à fait normal, mais c'est assez attendu. D'autres choses qui vont être intéressantes, c'est le prix des exportations australiennes. Et bien sûr, il n'y a pas plus grand que les mines, le minerai de fer en particulier, qu'on exporte en Chine pour construire vraiment des appartements, des usines, tout ça en Chine. Mais en Chine, il y a un ralentissement assez important, en particulier dans l'immobilier, etc. Donc, il y a des gens qui disent que ils vont commencer à demander un peu de moins en moins, que le prix du minerai de fer va baisser et rester bien en dessous de 100 dollars la tonne. Et là, on verra un effet assez important sur l'économie australienne. Ça va peut-être ralentir un petit peu l'économie australienne, ce qui aura aussi, on pense, un effet sur l'inflation. Peut-être que ça aussi, ça va aider à faire baisser l'inflation. Et en ce cas-là, ça sera intéressant de voir comment la Banque centrale va agir, si ça l'encourage à aussi faire baisser le taux d'intérêt.
Ouais, affaire à suivre. Ça a été la grande discussion l'année dernière, et il semblerait que ça reste vraiment au menu de Banono Chronique toutes les semaines, hein, parce que c'est comme ça, c'est l'actualité, parce que ça touche tous les Australiens. Allez, on va parler maintenant d'imposition, et donc le ATO, le service donc de taxation des Australiens, qui est très critiqué sur la façon dont ils recouvrent, ou ils essaient de recouvrer les dettes.
Oui, c'est intéressant là, parce que là, c'est des dettes historiques. Donc, c'est des dettes qui étaient connues, que le ATO avait enquêté et avait poursuivi des gens pour ces dettes. Mais il y a un moment, ils avaient dit non, en fait, on va arrêter, ce n'est pas économique, ça vaut pas le coup, on va laisser tomber. Et mais là, ils ont repris. Donc il y a tous ces gens qui pensaient que c'était fini, il y avait plus de questions, ils allaient devoir rien faire de plus.
Ils étaient off the hook, comme on dit en anglais.
Ils étaient off the hook, ils étaient très happy. Mais là, ils sont vraiment pas contents. Et donc il y a eu une enquête par les ombudsmen, c'est des organisations qui surveillent justement comment fonctionnent les agences gouvernementales comme l'Australian Tax Office. Et ils ont dit très clairement que le Bureau des impôts doit agir d'une façon beaucoup beaucoup plus juste, parce que là ça va pas du tout. On peut dire qu'il y a à peu près 15 milliards de dettes là. C'est ça qui est en question.
Ah oui, on parle pas de petites dettes, hein, on parle de quand même 15 milliards de dollars.
C'est beaucoup d'argent. La plupart, par contre, c'est des individuels. Donc, on ne sait pas combien d'individus. On sait qu'il y a 1,8 million de soit individuels ou des compagnies, mais on ne sait pas combien parmi eux sont des individuels, des citoyens et pas des compagnies. On n'est pas sûr, mais quand même, c'est 15 milliards de dollars. Et donc, pour beaucoup de ces gens-là, c'est vraiment un choc. Penser que c'était abandonné, mais là aussi, le Bureau des impôts demande de l'intérêt. De l'intérêt
en plus.
Pendant les années qu'ils avaient abandonné, et maintenant ils disent ah non, en fait il faut que vous payiez. Alors vraiment c'est pas très clair,
c'est un peu cavalier comme on dit en français.
Voilà, les ombudsman ils disent que ça va pas du tout, et que oui c'est vrai que la loi les oblige à faire ça, mais aussi ils disent que le Bureau des impôts doit agir d'une façon qui crée pas de la détresse en des gens. Il faut être quand même juste. Alors là, il y a peut-être un peu de flexibilité. Le Bureau des impôts qui disent oui, bon, on va peut-être laisser de côté l'intérêt, mais quand même, ça c'est des dettes. Oui, on avait dit que c'était pas économique, on allait pas les poursuivre, mais c'est des vraies dettes. C'est vraiment de l'argent qu'ils doivent nous payer, et donc ça va continuer. Mais c'est sûr que ils ont dit oui, ils ont dit non, ils ont changé tellement de fois que ils ont besoin de changer leur culture ou leur façon d'agir, parce que ça va pas comme ça.
Ouais, absolument. Voilà, comme ça on en saura plus sur le comportement. Vous nous tenez au courant, j'espère, dans les semaines à venir, Nicolas.
Ah oui, avec plaisir.
Merci Nicolas.
Merci Christophe.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
Sous la peau comme une enclume, parfois, on me dévisage, on me salit le paysage, mais je m'assume, comme toi, je suis lune, et soleil libre d'être lune, comme l'autre, car je suis lune, et soleil.
La voix très reconnaissable de Zaz sur les ondes de SBS Audio avec son titre « L'une ou l'autre ». On en parlait en sommaire, rencontre avec Jack Gilmer, un architecte appartenant au peuple Warimi et Biripi-Gouri, basé à Sydney. Il est l'un des récipiendaires du programme de résidence Galang 2024. Le projet de résidence de Gilmer vise à enquêter sur l'exposition et le traitement des artefacts et collections autochtones en abordant l'histoire coloniale de la muséologie. Interview au micro de notre collègue Bertrand Tougandamé.
Parras Parramatta and the Cité Internationale des Arts in Paris have just announced the two recipients of the Galang Residency Program, a program that supports First Nations creatives through two intensive 3 months art residencies in Paris. And I'm happy to say I'm joined by Jack Gilmer, one of the art residency recipients. Jack, first of all,
Congratulations on winning such a prestigious art residency and welcome to the program.
Yeah, thank you so much for having me. It's really exciting. I'm excited that I had the opportunity to actually be accepted as part of the Geelong residency. I think it's a really unique opportunity. And yeah, happy to be here and have a yarn and let everyone know what I'm going to be up to.
And what was your initial reaction when you found out you were chosen?
Oh, honestly, I was a bit shocked. I was quietly confident at the start, only because I recognised that my proposal was really confident. But after a week of waiting, I started to question myself. I'm like, oh, maybe this isn't quite what they're after. So when they rang me and they let me know the news, I was really excited. I was kind of shaking a little bit. I didn't know what to expect. And I had my little dog with me as well. And I looked at him and got a little bit upset, realizing that I'm not going to see him for 3 months, which is a little bit funny, but, that's part of the journey.
You may be able to take him, maybe.
Yeah, maybe. Virgin allow our own dogs on domestic flights now, but I don't know if we can take them internationally. But I think my partner wants to spend time with him while I'm away, so that'll be a good opportunity for them.
You explore country as the driving narrative of your design practice. How do you envision integrating Indigenous cultural paradigms and knowledge systems into your architectural projects? Because I gather built spaces are some of the areas you mainly focus on.
It's a new intersection between cultural knowledge systems and built environments that's kind of been introduced into architectural, that we've kind of had the opportunity to encourage the voice of First Nations people to participate in the built environment, which is something that I'm really excited about and, excited to explore. And that's kind of what I see my role in architecture as a First Nations architect is a bit of a translator or conduit between the First Nations knowledge systems and the built environment. This idea of two-way learning and making sure that First Nations people can build the capacity and capability within the built environment space, kind of understanding our lingo and opportunities to influence and conceptualize the architectural response to place. And then on the other hand, bringing my built practitioner kind of, friends and colleagues on this journey as well to start to understand that First Nations knowledge system and how that can approach our approach to the built environment. So it's kind of a new space that I've identified as being a space of unrealized potential and endless opportunity that I'm really excited to explore. One of the ways that I do it is understanding a site through the means of this cultural infrastructure.
Yeah.
And there's this quote that I often reflect on by Peter Myers, and he's titled it A Third City. He says, the beginnings of any colonial enterprise are proverbially insensitive to local cultures. So why should we be surprised that Philip ignored or chose to ignore the very definitive indications of an existing urban structure? And the way that I interpret that is our First Nations knowledge system's way of understanding country and place and the stories that are embedded within those mnemonic devices that, we actually use the landscape for to carry these stories and the lessons that are embedded in them. And something I've been really interested in over the last few years is language. I've been learning my language. And I, at the start of the year, I enrolled in a Cert 3 so I could actually be part of the revitalization and education of it, kind of, in technical terms. Because of this residency, I've actually had to postpone that because I'm going to be away for 3 months.
Yeah.
But I'm doing a Cert 2 instead, which means I'll be online. But language has this really important role in understanding that cultural infrastructure of country that lies below the concrete blankets of our city. So it's kind of exploring that and exploring the meaning of place, and that meaning of place then reveals what it is that country was and how country was designed by mother and our creation ancestors. And making sure that the architecture and the work that I'm able to influence in the urban environment can ensure that country flows as intended by design by our creation ancestors and mother. So making sure that water can flow through these systems and that the wind can move through here and that the sun can access these places. So it's something that, it's quite new and foreign. And, we're trying to build the confidence of, developers and clients and government organizations in this space as well, as something that we should, definitely have a deeper look into in our approaches to, the future of this world and the cities that we live in.
And coming back to the residency, it is said that you aim to open restitution conversations between institutions and decolonize museology through your residency project. Could you elaborate on how you plan to achieve this and the significance of giving agency back to First Nations communities?
You know, the summary of my proposal is about restitution and repatriation of First Nations cultural materials and remains. Investigating this in a museum context, so looking at the museum designed by Jean Nouvel, and I'm going to mispronounce this until I go to France and learn a bit more of their language, but the Musée Jules Quay Branly, which was designed by Jean Nouvel, was a museum that was designed specifically for First Nations cultural materials, but, you know, global First Nations communities. And there's been a lot of criticism about the museum, the way that it houses objects, and that there's criticism that they're in a vegetable state. So they're not kind of being celebrated, or they're not designed or, you know, put on display or on exhibition in a way that's culturally appropriate. But I aim to use architecture as a tool to investigate that relational ontology that object has with object, that object has with people, that object has within space and its surroundings and the elements and the institutions that they exist in. So that's looking at it from a design point of view, maybe looking at some design guidelines, but also the kind of the structure and the museology of a way that a museum and institutions like this operate, trying to get agency and access back to First Nations communities.
Yeah, I'm pretty sure they'll also learn a lot from you. It's not you learning, they'll also learn from you, because what you just mentioned is something that a lot of non-Indigenous people wouldn't be aware of how the representation and, you know, celebrating art is very important. You just don't put it there and park it as if it's just part of decoration. It has to be celebrated appropriately.
Yeah, exactly.
Yeah. Now, you also mentioned the importance of collaboration with elders and traditional custodians in your artistic practice. How do you ensure that Indigenous perspectives and voices are central to your creative processes?
Yeah, so it all depends on the opportunity that presents itself with a project as well. And as an architect, I need to make sure that I do my due diligence to make sure that the project actually provides a viable opportunity for the voice of the First Nations elders and community members to be heard. Not always something that we can achieve, you know, as I kind of, you know, I advocate quite heavily and I kind of, you know, protest in a way in my response that we need to make sure that the voices of community members and elders are heard. And I think designing connected with country is something that somebody can't do as a sole voice. It's definitely a community effort. I think, you know, in a way, a lot of my role is making sure that these clients and these institutions actually recognise the value of First Nations knowledge systems and the ways that that's going to create a better future for not the next generation, but several generations following us.
Yeah, and you kind of mentioned it earlier that you're undertaking some studies, and especially studies in Kathang language, to contribute to the revitalization of your ancestral language. How do you see language revitalization intersecting with your architectural work and broader Indigenous cultural preservation efforts?
Like I said before, language is such a unique way of understanding a place and the meaning of a place. So one of the words that I unpack with Uncle Ray, who I have a relationship with, is he kind of introduced me to language many moons ago, many years ago, before I really started to dive into my own ancestral language. And it's the unpacking and the interpretation of a word and a place name. So the Western way of naming a place is after a person. Often I reflect on this quote by Stan Grant at a conference I listened to him speak at, and he said, from a First Nations perspective, I quote Stan Grant, "Language doesn't tell you who you are. Language tells you where you are. And at the moment, our architecture is telling us who we are and not where we are." So, end quote. So by unpacking language of place and a place name, you can start to understand the elements that kind of collide at this place and the meaning behind the stories as well. So there's a headland in Newcastle called Weebaigumba, otherwise known in Western language as Nobby's Headland. And Weebaigumba means wind on and around that place, which totally makes sense when you look at it from a contextual point of view. It's just off the mouth of the river, between the intersection of the river and the ocean. It's got southerly winds that are coming in to impact it. So, you know, there's this wind in and around it. So it's completely contextualized through language. And language is such like it's such a beautiful and poetic way to understand place as well. One of the words that I learned recently, which is quite poetic in nature, is the word aranga, which means in the red, and it's our word for the sun setting. So it's not a word for, you know, sun setting, but it's actually a word for a moment in time that has an atmospheric quality to it, which is quite beautiful, poetic, and it's an incredible way to understand that moment that we're living in. Just kind of pronouncing those words builds this kind of connection back to my culture that, you know, I just love. Speaking the language has really strengthened my identity as well, you know.
Oh, that's really, really powerful. Now, before I let you go, so something we may not have covered that you'd like to bring to the attention of our listeners?
I guess what I'm really looking forward to over there is the opportunity that the residency provides. And it's the opportunity of, and I would kind of really promote other First Nations artists and creative practitioners to apply for such residencies, because it puts you in a place where you can really focus on something that means a lot to you without distractions as well. So, you know, being home, you have all these distractions of different deliverables, different projects that are coming up. But this really puts you in a headspace that you can really focus on what matters. And, you know, although I'm going to Paris, the real reason I'm going over there is to, you know, really try to make change for our communities. And I hope that what comes out of this study is something that's going to benefit all of the communities of this continent they now call Australia.
Jack Gilmer, recipient of the 2024 Galang Residency Program at the Cité Internationale des Arts, thank you very much for taking the time to talk to us about this journey you're embarking on. It's really been a great pleasure talking to you.
Yeah, Marumbu, thank you. I really appreciate it.
C'était la chanson Un homme extraordinaire interprétée par Les Innocents. On marque une très courte page de publicité et on se retrouve dans un instant.
Vous êtes passionné de films ? SBS On Demand a des centaines de films disponibles, visionnables à n'importe quel moment. Pour le meilleur des films dramatiques, des documentaires, des films d'horreur, des comédies et des films d'amour, allez sur sbs.com.au/on-demand. Vous êtes avec Radio SBS en français.
Focus olympique, vous savez que les JO donc de Paris arrivent d'ici quelques mois. La grande fête du sport populaire et de l'olympisme aura lieu donc en France cette année. Et à 100 ans, coup de projecteur sur Charles Coste. Il est champion olympique. Il est d'ailleurs le plus âgé champion olympique de France. Charles Coste a remporté sa médaille lors des JO de Londres en 1948 pour l'épreuve de poursuite par équipe de cyclisme sur piste. Il vit aujourd'hui à Bois-Colombes, dans les Hauts-de-Seine. C'est un reportage de Lorena Durette.
Très accueillant, Charles Coste ouvre la porte avec un grand sourire. Avec son déambulateur, il chemine dans son appartement de Bois-Colombes. Il est très heureux de pouvoir témoigner de son histoire. Il y a d'ailleurs une pièce entière qui lui est dédiée, sa médaille d'or et dans une vitrine,
voilà,
avec ses autres récompenses.
Et puis la Légion d'honneur ici.
Du haut de ses 100 ans, le champion olympique n'a rien oublié de sa victoire aux Jeux de Londres en 1948.
Nous étions champions olympiques, c'était notre rêve et qui se réalisait ce jour-là.
4000 mètres poursuite oppose la France à l'Italie.
On m'a désigné comme le capitaine de l'équipe de France, l'équipe de camarades.
Coste, De Canali, Adam et Blusson. Et c'est une splendide victoire olympique pour la France.
Une journée qui avait aussi été marquée par la remise de médailles, avec une cérémonie bien différente de celle d'aujourd'hui.
On montait sur un podium, un tout petit podium, on avait du mal à aller à quatre d'ailleurs. On nous offrait la médaille dans un coffret, vous voyez.
Il y a tout de même un petit bémol. Charles et ses coéquipiers ont été privés de leur hymne national.
Et nous avons attendu un moment et on nous a dit, on n'a pas trouvé le disque de la Marseillaise, donc vous pouvez descendre du podium. On était un peu déçus, bien sûr, mais notre rêve était accompli, c'était déjà un grand. grand bonheur.
Son amour pour le vélo s'est déclaré dès son plus jeune âge.
Mes parents m'ont acheté un tricycle, je faisais les tours de la table, j'avais à la maison, j'avais deux ans et demi. J'ai toujours eu, comment dirais-je, l'esprit olympique. Ma mère disait que à 10 ans, 10, 12 ans, je disais que je serais champion olympique ou général. J'ai préféré choisir champion olympique, vous voyez.
Le vélo lui a aussi permis de rencontrer sa femme, Yvette, il y a plus de 60 ans.
Voilà, cher monsieur.
Merci, madame.
C'était à Rambouillet.
Oui.
À une course cycliste.
76 ans après sa victoire, Charles Coste devrait assister aux Jeux Olympiques de Paris cet été.
Vous savez, c'est formidable pour moi. Je suis né en 1924. J'ai été champion olympique en 24 ans. Et aujourd'hui, en 2024, j'espère assister aux Jeux de Paris. Des Jeux qui, pour moi, seront grandioses.
Mais ce n'est pas tout. L'ancien cycliste devrait aussi être l'un des derniers porteurs de la flamme olympique. Et de cela aussi, il est très fier.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
13h passées de 56 minutes sur SBS French, c'est l'heure du rappel des titres. Deux corps repêchés dans le port de Baltimore deux jours après l'effondrement d'un pont. Quatre autres personnes sont toujours portées disparues. Elles sont présumées mortes également. Les États-Unis rappellent à Israël leur opposition à une offensive à Rafah. Pour Anthony Blinken, il existe d'autres solutions qu'une invasion terrestre de grande envergure, ce que conteste Benjamin Netanyahou. Un couvre-feu de deux semaines à Alice Springs renforcé pour les mineurs suite à des échauffourées ayant entraîné des violences parmi environ 150 personnes de la communauté aborigène. Les territoire du Nord demande au gouvernement fédéral d'intervenir. Et enfin, clap de fin pour la maire de Melbourne. Sally Capp a annoncé quitter ses fonctions en juin après 6 ans en poste. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver en intégralité sur notre site internet sbs.com.au/french ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. Pour ce qui est des dernières actualités, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur le site de SBS News. Votre prochain rendez-vous avec le programme en français, c'est samedi, même fréquence, même heure. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée. Au revoir, messieurs, dames.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.